passante.
La bande passante.
Laurence Pierre.
Il sort aujourd'hui, ce 29 janvier, un quatrième album toujours aussi funky, soul, électro, guilleret et romantique aussi, de bonne humeur dès le matin et aussi nostalgique à la tombée de la nuit. Composition pop et accroche-cœur. Un quatrième album baptisé To Be a Stranger, comme un étranger nomade qui rebondirait sur les pulsions du monde qu'il habite. Paris, San Francisco, aujourd'hui Berlin, parce que l'art y est partout présent, mais pas commercial, d'où l'idée d'une certaine radicalité, disons liberté. C'est une bête de scène qui laisse un parterre de fans transis. C'est un musicien hors pair, jamais sans son clavinette. Ce soir, installé dans le fauteuil d'Alain Pilot que vous retrouverez lundi, je reçois Hervé Salters, alias General Electric, artiste au parcours déjà riche de 1000 rencontres et collaborations et qui ose encore aujourd'hui se livrer ouvert sur toutes les couleurs des sentiments, et c'est bien ce qu'on va voir ce soir. Bonsoir General Electric.
Bonsoir.
Et merci d'être avec nous ce soir dans cette bande passante résolument endiablée et boogie. Je le disais tout à l'heure, To Be a Stranger est sorti aujourd'hui. Aujourd'hui, en voici un premier extrait.
Was nice. You're shooting elbows from your mouth. They can't be negated. You walk into a room. The view gets pixelated. Killing smiles on faces. Lips turn blue. Octagon, it digs into my soul, sends a chill down my spine. You got us all shaking. Does everyone you know get the same sensation? Frozen from the cold jab as you dole out the tension. Is anyone you know without bruises? The wool socks, ready for your ice blocks, but your mouth is an ice box. Watch out, here it comes. Mental blizzard.
Angle Boogie, extrait de To Be a Stranger. Est-ce que vous appréhendez un petit peu la sortie de cet album qui sort aujourd'hui même? Est-ce que vous vous demandez, General Electric, comment le public va le prendre? L'album précédent date d'il y a plusieurs années déjà, 2011.
Parc à Suite était sorti en 2011, effectivement, et donc il y a forcément un petit peu... je sais pas si c'est de l'anxiété, c'est de l'excitation, quoi. J'espère, oui, retrouver certaines personnes que j'ai pu croiser lors de concerts pendant la dernière tournée, puis peut-être trouver des nouveaux fans aussi.
J'ai l'impression que vous avez un parterre de fans, je le disais tout à l'heure, absolument incroyable, et que de toute façon, ils sont d'ores et déjà au rendez-vous.
Alors, il y en aura certains, c'est sûr. Maintenant, je crois qu'il faut pas s'asseoir trop sur ses lauriers de manière générale. Je pense dans le monde de la pop, on est vite remplacé. Donc moi, la manière dont je considère ça, c'est qu'à chaque fois que je sors un disque, je remonte dans le ring comme si j'étais tout neuf. Et je pense que c'est plus sain d'envisager ça de cette manière-là. Maintenant, évidemment, je me rassure aussi avec le fait que je sais qu'il y aura quand même certaines personnes qui vont être intéressées et qui vont suivre.
Comment a été fait cet album? Ne me dites pas que vous avez mis 5 ans à le faire.
Non, effectivement. Ouais, en fait, je suis sorti de la tournée.
Pourtant, vous avez pris plus de temps pour le faire, je crois, que les albums précédents.
Ouais. En fait, ce qui s'est passé, c'est que je suis sorti de la tournée de Parker Street. Donc, l'album était sorti en 2011. On a fait une bonne année de tournée. C'est une vraie belle tournée, un petit peu partout dans le monde. Et je suis sorti de là très, très fatigué.
Ça ne m'étonne pas.
Très heureux aussi, mais bien fatigué, puis aussi avec un besoin de quitter un petit peu le projet, en fait. Donc je me suis éloigné de ça. C'est assez bien tombé, parce que c'est le moment où moi-même, ainsi que ma femme et nos enfants, on a choisi de déménager, en fait, de quitter San Francisco pour aller vers Berlin. Mm-hmm. Donc le changement géographique a un petit peu généré ce changement d'état d'esprit aussi, et ça s'est accompagné d'une c'est pas d'un repli, c'est-à-dire que j'ai continué à faire de la musique, j'ai fait d'autres choses, j'ai fait une collaboration avec Chief XL de Blackalicious, on a fait un projet qui s'appelle Burning House. J'ai fait une musique de série pour une série qui s'appelait Paris, et une musique de film aussi pour un film qui vient de sortir d'ailleurs, qui s'appelle Arrêtez-moi là, avec Reda Kateb. Et puis j'attendais en fait que l'envie de refaire du General Electric revienne, puisque c'est assez important pour moi, ça.
Et Berlin est un personnage principal de cet album, l'endroit ça... où vous trouvez influe sur le processus
créatif. Sûrement,
ouais,
absolument, ouais. Maintenant, c'est pas évident pour moi de mettre le doigt exactement sur les choses qui sont dans ce disque grâce à Berlin. Je pense que c'est plutôt, enfin, de manière générale, quand vous créez quelque chose, vous nourrissez tout ce qu'il y a autour de vous. Ça peut être les gens autour de vous, ça peut être une ville, effectivement, ça peut être juste, je sais pas, un oiseau qui chante dans un arbre, j'en sais rien, donc forcément, un déménagement pareil, ça a un impact. Je pense pas qu'il est musical au premier degré du terme, c'est-à-dire j'écoute pas beaucoup de techno minimaliste, qui est quelque chose qu'on entend beaucoup à Berlin,
par exemple.
Par contre, c'est une ville qui offre énormément d'art en général, et donc on est entouré d'un art assez radical. Vous en parliez tout à l'heure, et ça c'est très sain. Enfin moi, en tout cas, ça me booste vraiment, et je crois que ça m'a un petit peu poussé dans mes retranchements, et ça m'a forcé un petit peu à aller un peu plus loin.
Aujourd'hui à Berlin, hier à San Francisco, c'est aussi l'occasion donc ce soir de revenir à vos premières amours. Vous en parliez il y a un instant, celles qui vont vers le hip-hop et toute la bande du collectif Quantum Project.
Right here, right now. Calling out to all area group. We gon' make this shit happen right here, right now. Calling out to all area group. We gon' make this shit happen right here, right now. On how we crushing and snuffing. The ones that's buffing and snuffing. And while they launching, we busting to get you up in the club. And we keep you wanting and dubbing. Dig it like something you're puffing. I'll fill it up in your stomach to your astonishment on a mission. The marvelous starving is verbal novelist. Killing them softly, offing them often. They in a coffin, we drilling them. Time I'm all in the tournament. In the bottomless pit.
Yeah, the vibe transcendental. The dance floor assembled. I pulled her south central. We crashed cymbals. I made her breasts jiggle. Grin just a little. Didn't blow my cool. Kept it confidential. She asked for vino, I said follow me slow. We sipped, we cuddled, we settled the score. She wanted my new medals, I gave her all 10, bro. What a night, what a close.
So I sit back in the- calls me, just might be my lucky day. So I sit back and wait and see when she calls me. Just might be my lucky day. So I sit back.
Il y avait d'abord Lyrics Born avec Calling Out et puis Blackalicious, Your Move en 2005. Vous avez joué sur cet album, je crois, General Electric's.
Absolument, oui.
Et puis Pigeon John à l'instant, Champagne on My Shoe, c'est un album. Vous avez produit des titres pour cet album. Le hip-hop, c'est vraiment votre personnalité. Je vous vois avec le sourire quand vous redécouvrez ces titres plus.
Ouais, c'est un vrai plaisir de réécouter ça. Oui, c'est quelque chose en fait que je connaissais assez mal, le hip-hop, avant de déménager aux États-Unis.
Comment ça s'est passé? Vous arrivez à San Francisco et vous tombez sur le Quantum Project comme ça ou... Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez eu envie d'aller vers ce, vers ces personnes?
Ouais. Ce qui s'est passé exactement, c'est j'ai écouté c'était Nia, le premier album de Blackalicious dans une boutique de disques. En arrivant à San Francisco, je me suis dit, il faut absolument que je rencontre ces gens. Or, il se trouve qu'un grand ami à moi qui s'appelle Vincent Segal, que vous connaissez sans doute, connaissait Chief XL de Blackalicious. Puisque Vincent connaissait Harley White, si vous voulez tout le détail, qui était le bassiste sur le premier album de Blackalicious. Donc, ceci explique cela. J'ai eu l'email de Chief XL de cette manière-là, à travers Vincent. J'ai envoyé un email un jour à X en lui disant « Salut, je suis à San Francisco, j'ai des claviers vintage, joue du funk, appelle-moi si t'as besoin de moi. » Et le lendemain, il m'a appelé. Et j'ai entendu ce que je pensais être la voix la plus grave que j'ai jamais entendue de ma vie. Et il m'a proposé de passer, viens ce soir avec ton clavinette. Et puis voilà, ça s'est fait comme ça, on s'est entendu tout de suite. Et c'est devenu, The Quantum Collective, c'est devenu ma famille d'accueil musical, quoi, sur San Francisco.
Et c'est une famille passionnante, à mille lieues de la guerre côte est, côte ouest, avec musicalement cette couleur un peu funk et vintage qui font leur différence.
Ouais, tout à fait, ouais.
Et vous êtes resté donc en contact avec eux, vous dites, vous avez des projets encore aujourd'hui avec Blackalicious.
Ouais, en fait, il y a deux ans, là, on a sorti un disque ensemble avec Chief XL, donc le DJ producteur, un disque sous le nom de Burning House, ça s'appelait Walking Into a Burning House, donc c'est principalement instrumental, un truc dont je suis très fier, on a bien rigolé en faisant ça. Et puis le dernier Pigeon John là, vous avez passé un extrait, ça on a fait ça, il est venu le finir à Berlin aussi, donc je reste en contact avec toutes ces personnes bien sûr.
Et l'exercice de la production, ça vous va parce que c'est encore une autre facette de votre personnalité. Il y a vous, j'ai l'impression en tant que solitaire quand vous faites un album, il y a vous sur scène. Alors là c'est vraiment un show absolument extraordinaire, vous êtes totalement extraverti. Et puis il y a le côté producteur où là vous êtes obligé de vous mettre un peu en retrait, non?
Absolument, mais j'aime beaucoup collaborer avec les gens en fait. L'idée.
Vous enrichissez au fur et à mesure.
Absolument, ouais. Il y a un effet un petit peu ping-pong où je me nourris de ce qui se passe avec les collaborations. Et puis je pense que General Electric, ça me nourrit aussi pour les collaborations que j'envisage. En fait, General Electric, c'est un peu un accident. Hein. Je suis avant...
Un bel accident.
Oui. Non, mais j'en suis ravi, mais je veux dire, je l'ai à moitié voulu, ça m'est arrivé autant que je l'ai voulu, quoi. Et j'étais claviériste dans d'autres groupes avant, et il a fini par arriver ce truc-là, mais collaborer avec des gens, ça reste quelque chose de très naturel pour moi.
C'est marrant, moi j'entends un petit côté Beatles là dans ces,
ah oui,
dans ces petits arrangements, non?
Ah si, si, absolument, ouais, ouais, ouais. Bah, c'est une grosse influence pour moi aussi, ouais. Bah,
ouais.
C'est un morceau qui mélange de manière assez contrastée et assez ouverte des
c'est très justement, pop finalement.
Oui, bah, il y a une influence très pop et très hip-hop dans la programmation et dans le jeu des instruments.
Puis il y a votre voix et votre clavinette qui font vraiment la différence. Que raconte cette chanson Magnets?
Magnets, ça raconte plusieurs choses en fait. Ça parle de... Alors le premier couplet, ça parle de la manière dont on peut se sentir attiré vers quelque chose sans savoir pourquoi.
Magnétisme.
Voilà, une espèce de magnétisme. Et parfois au contraire, se sentir repoussé de quelque part ou par une personne, mais sans savoir exactement pourquoi. Sur la fin, ça parle d'amour aussi, deux amants qui s'attirent.
Il y a beaucoup d'amour dans cet album, hein.
Oui, absolument.
Qui se lit un peu comme un livre ouvert, ça démarre sur une incompréhension, misunderstanding, mm-hmm, et ça finit sur une valse. Mm-hmm. Et entre ces deux scènes, il se passe tout un florilège de sentiments, mm-hmm, assez incroyable.
Ouais, effectivement.
Vous dites, je l'ai voulu comme un album et pas comme une collection de chansons, justement.
Non, tout à fait, ouais. Mmh. Ouais. Je suis toujours assez fan de ce truc assez saugrenu qui est un album, vu que ça les gens n'en ont plus rien à faire.
Absolument. On s'en fiche.
Mais
ça ne se vend plus.
Voilà, exactement. Mais, moi, j'aime toujours ça. Enfin, j'ai grandi avec ça. Je fais partie de cette génération, quoi. Et donc, oui, en fait, quand j'entame un disque, je pense pas en termes de concept ou quoi que ce soit, hein. Je pense pas à un début ou à une fin. Je lance d'abord des pistes, des idées pour des morceaux, et puis c'est au fur et à mesure du processus, quand ça commence à s'éclaircir un petit peu où vont chaque morceau, je prends un pas en arrière et puis je regarde un petit peu ce que j'ai, et c'est là que j'essaye de fignoler un petit peu chaque morceau pour que ça finisse par être cohérent comme un tout. Et puis c'est là que je cherche voir quel va être mon premier morceau et si je l'ai ou pas, quel va être le dernier si je l'ai ou pas, et quel est le fil conducteur et comment je peux aider pour faire en sorte qu'il y ait un fil conducteur.
C'est un album qui donne vraiment la bonne humeur et qu'on a vraiment envie d'écouter et de réécouter quand ça va pas bien, par exemple. Et voilà, To Be a Stranger. Vous restez avec nous, General Electrics, parce que il faut qu'on parle de cinéma, il faut qu'on parle de musique, de film, de clavinette, de la préparation de vos futurs concerts aussi. Je le disais tout à l'heure, le Trianon, au mois de mars, c'est complet. On va parler de l'homme qui avait perdu ses empreintes digitales. On parlera de Balthazar également. Et puis, on prendra des nouvelles du monde avec un flash d'information. Et puis, un clin d'œil sur l'événement Peacock Society, qui est à mon avis, je ne sais pas si vous vous intéressez aux musiques électroniques un petit peu.
Un petit peu, mais je ne connais pas très très bien.
À mon avis, un des plus beaux festivals électro-européens de l'hiver. Ça se passe dans le cadre magnifique du Parc Floral de Paris, ce qui ne gâche rien, dans l'Est parisien.
Ah oui,
c'est
vrai,
la nuit prochaine. Quelques 10 000 participants à trembler dans la chaleur de l'hiver, au rythme par exemple de Motor City Drum Ensemble. Il est rare en France, rare à Paris, et c'est la nuit prochaine.
La bande passante. Laurence Pierre.
Suite de cette bande passante sur RFI en compagnie de l'artiste qu'on appelle General Electrics. 15 ans de carrière, 4e album, sorti officiel aujourd'hui même ce 29 janvier de To Be a Stranger. Ce soir, confidence, secret de fabrication et autres madeleines. Après ce coup de projecteur sur cet autre pop à tendance guitare et violon, Balthazar était cette semaine à Paris. Bonsoir Bastien Brun.
Bonsoir Laurence.
Balthazar qui doit être, alors qu'il est sur la scène de la laiterie à Strasbourg, vous avez suivi ce groupe belge tout au long de leur tournée au Printemps de Bourges en avril dernier et à l'Olympia cette semaine.
No matter what, it's how I make a thousand variations of the same mistake. No matter what, it's the same old thing. You got me trapped in my freedom again.
Parler de rock belge, c'est un peu comme parler d'image à Épinal. Mais bon, Balthazar, qui s'est formé il y a une grosse décennie à Courtrai, Kortlek, comme on dit en Flandre, autour de deux compositeurs, le nonchalant et pince en rire Martin Delvaudère et son négatif plus terrien Yinte Depré, est parmi les Belges qui connaissent actuellement le plus de succès en France. La dernière fois qu'on a vu ces quatre garçons flamands et une fille wallonne à Paris, c'était en avril dernier, dans un Bataclan plein comme un œuf. Comment c'était ?
Very good one. I mean, it was the best.
Un très bon concert, le meilleur ici à Paris.
Merci beaucoup, bonsoir Paris, nous sommes Balthazar.
Je me rappelle qu'on a joué à la Cigale, au Trianon, et de toutes ces dates, le Bataclan a été le meilleur concert. Et c'était, je crois, au début de notre tournée. On était très impatients de jouer nos nouvelles chansons. Le public était chaud, et oui, ça a été étrange d'entendre ce qui s'est passé. On était à Madrid au moment des attentats, et on a des choses qui sont revenues de notre concert. On vient de sortir un mini-album de 4 titres, et un titre, Nightclub, a été enregistré au Bataclan. Simplement parce que c'était un bon concert. Il n'y a pas de message politique. C'est le souvenir de cette soirée, un bon concert avec de bonnes vibrations.
Un concert dans les règles de la pop, comme le dit en anglais Yinte Depré. Un de ces rendez-vous, la tension est palpable, mais où au fil des chansons, chacun va et vient sur scène, se disant des petites choses à l'oreille, se donnant la collade. La définition même du grand soir pour Yinte et Martin.
Oui, je crois aussi. Je veux dire, il faut rentrer en contact avec le public et prendre les dimensions de la salle. Et tout cela doit grandir durant le concert.
Ça aussi a à voir avec notre musique. On n'est pas un groupe avec deux hits et des chansons qui marchent et dont personne ne connaît le reste du répertoire. On essaie de créer un monde, une atmosphère. Ce sont des choses qui commencent juste à exister après trois chansons et qui vont crescendo jusqu'à la fin du spectacle.
Et Bastien, vous l'avez constaté à l'Olympia mercredi, Balthazar a une manière bien à lui de nous emmener dans son petit monde.
En effet, Laurence, Balthazar évoque notamment les Last Shadow Puppets et ne révolutionne pas la grand-mère pop, mais il la revisite de façon classieuse, comme sur cette entrée en scène épique. Avec un violon en pizzicato qui donne le tempo. Ou sur ses chœurs.
Why should we wait? Why should we hide from the confrontation with the light?
Je ne sais pas vous, Laurence, mais tout ça me donnerait presque envie de me mettre au chant de marin.
Bah écoutez, Bastien, pourquoi pas, hein.
Oui, d'autant que Yinte me disait lors du dernier Printemps de Bourges, en français dans le texte, cette fois-ci...
J'aime pas les choses trop compliquées, en fait. Et... quand tu arranges les chansons assez simples, le message est toujours très clair. Et nous voulons pas avoir de camouflage et tout ça. Donc oui, c'est vraiment de pop. Ça commence toujours nos chansons avec la batterie et en fait le groove, batterie et basse. Et après, c'est toujours seulement trouver des choses pour faire l'atmosphère. Donc ça. C'est parfois un violon ou peut-être un peu de guitare et tout ça. Mais ben, nous voulons pas que c'est un mishmash de trop de rock guitars et tout ça. Nous aimons pas ça. Et aussi, il y a beaucoup de place pour le son. Par exemple, le son du bass sonne comme ça parce qu'il y a la place pour ça. Et aussi pour la voix. Et donc, voilà, c'est notre truc.
While the moon slips out the door. Asking back for more, it's what we came here for. She won't see us anymore. But what will we sing? What is it we'll shout out for? As the porridge is gone.
Balta Balthazar, extrait de son troisième album Thin Walls, capté au dernier printemps de Bourges. Balthazar qui sera demain soir au Krakatoa à côté de Bordeaux et en tournée européenne en février. Italie, Suisse, Russie, Lituanie, Hollande avec un concert au Zoom le 6 mars qui est déjà comblé, semble-t-il. Merci beaucoup Bastien Brun pour cette immersion et à bientôt.
Je vous en prie Laurence, à bientôt.
Merci beaucoup, bonsoir. Bonsoir Balthazar.
On reparlera sans doute tout à l'heure de la façon dont vous préparez la scène General Electrics, mais on a l'impression que c'est vraiment un acte vital pour vous d'aller à la rencontre du public. Et puis je le disais, la façon dont vous vous exprimez sur scène est phénoménale. Jerry Lee Lewis passerait pour un enfant de cœur, un petit peu, j'ai envie de dire. Dans quel état d'esprit êtes-vous quand vous sortez de scène, par exemple? J'ai du mal à croire que vous rentriez chez vous et que vous regardiez la télé, par exemple.
Non. Ouais, non. Effectivement, quand on sort de scène, on est totalement sous adrénaline, en fait.
Parce et que oui.
C'est, ça demande beaucoup d'énergie, ce qu'on
Comment
fait sur
on
scène.
Fait pour redescendre, comme on dit?
On attend, on boit des tisanes ou autre chose d'ailleurs, mais et puis on discute, on blague. En fait, on repart assez vite. Généralement, on plie le matériel, on met ça dans le tourbus et puis on repart pour la prochaine destination. Donc en fait, c'est assez tranquille et c'est très agréable de descendre tranquillement pendant que le bus roule et nous emmène quelque part. Une sensation de voyage avec cette vibe qu'on laisse derrière soi du concert passé et du moment partagé avec les gens. Et puis la direction du futur concert.
La bande passante en compagnie de General Electrics pour évoquer ce nouvel album, mais aussi de l'influence de l'image cinématographique sur vos compositions. Un souvenir mémorable appelé Honeycutt ou encore Superstition qui est un peu la cinquième de Beethoven du clavinet, et ça c'est vous qui le dites. Il y avait d'abord Stevie Wonder avec Superstition, Honeycutt. Alors ça, c'est vous, General Electrics en 2006, autre collaboration avec Aluminum City. Et à l'instant, Lalo Schifrin. Alors par quel bout commencer? Par l'amour du clavinet que vous a donné Stevie Wonder, par l'amour du cinéma aussi? Est-ce que vous êtes cinéphile, par exemple?
Absolument, oui.
Il y a un filtre cinématographique dans la musique que je fais. Est-ce que vous voyez des images? Ça veut dire quoi? Est-ce que vous voyez des images quand vous composez un morceau?
Ça peut être ça. Ça peut être aussi une recherche d'ambiance sonore. genre un petit peu cinématographique. Certaines idées de morceaux me sont venues comme ça en fait, pas d'une idée concrète de mélodie ou d'une progression harmonique trouvée sur un clavier ou quoi, mais plutôt juste une atmosphère que j'aurais recherché à créer après. Mais
que vous allez piocher comme ça dans un film qui vous a marqué?
Alors pas nécessairement, non, c'est plutôt des choses imaginées pour le coup. Non, mais par contre, la musique de film en général, enfin de celle que j'aime, font partie de mes influences, ouais. Et je pense que sur certains morceaux, comme par exemple Waltz No. 2 sur le dernier album,
ou encore You Really Let Me Down.
Ouais,
je trouve.
Absolument, ouais. Absolument, ouais, celui-là, effectivement, ouais, ce côté-là, sont des ambiances qui sont marquées par ça, par cette histoire-là.
Vous êtes rentré dans ce studio en disant ce décor me fait penser à un film des années 60.
Oui,
ce studio tout blanc avec ce joli mobilier
tout
années
à fait.
70.
Ouais,
même.
Ouais, ça me faisait penser à Logan's Run et puis au Milk Bar dans Orange Mécanique.
Ouais, c'est ça.
Il est super ce studio.
Il y avait Honeycutt aussi dans ce mix spécial bande passante. Ça reste un bon souvenir pour vous?
Ah oui, carrément, ouais. C'est une collaboration que j'avais montée avec...
Ça a été un one-shot, hein, comme on dit, une seule fois, un seul album.
Non, il y en a eu un deuxième.
Il y en a eu deux,
ouais, mais c'est surtout le premier qui a fonctionné, enfin aux États-Unis. C'est resté indépendant, hein, on n'est pas devenu millionnaire, loin de là, mais on a beaucoup tourné avec ça là-bas, aux États-Unis. Et c'est un album qui a eu un impact pour moi aussi par rapport à ce que j'ai fabriqué derrière, parce que c'est sorti avant Good City for Dreamers, donc mon deuxième album, donc entre mes deux premiers albums. Et j'ai vraiment poussé beaucoup le sampling, le découpage de samples, etc. dans ce disque-là, comme on l'a entendu d'ailleurs sur ce morceau, Aluminum City, que vous avez passé tout à l'heure. Et ça a eu un impact sur ce que j'ai fabriqué derrière, dans le sens où j'ai pris un petit peu cette idée-là, cette formule-là, et je l'ai rendu un petit peu plus organique sur Good City for Dreamers.
Mmh. Le clavinette, c'est votre marque de fabrique. C'est Stevie Wonder réellement qui... quel est le début de cette histoire d'amour avec cet instrument vintage?
Alors effectivement, Stevie Wonder indéniablement, Herbie Hancock aussi, qui en a beaucoup joué quand il a fait du jazz funk au début des années 70.
Un son très particulier.
C'est
hein.
un son très particulier, ouais, c'est un clavier qui est sorti à la fin des années 60. C'était une marque allemande qui s'appelle Honor qui a sorti ça. Et à la base, en fait, ils faisaient ça pour que les gens jouent du classique chez eux dans leur salon. C'était censé être un espèce de clavecin électrique, quoi. Et c'est pas du tout ça qui s'est passé. C'est tombé dans les gens comme Stevie Wonder, justement, qui ont vu le potentiel rythmique de la chose, parce qu'en fait, la manière dont c'est fabriqué, je pense qu'il faut expliquer pour que les gens comprennent, en fait, à l'intérieur, il y a des cordes, et quand on appuie sur la touche, ça tape la corde. Donc, dépendant de la force avec laquelle vous tapez, ça peut faire bing ou ça peut faire ping, ping. Donc, il y a un côté un petit peu slap, comme si on tirait une corde sur une basse ou quoi. Et c'est très percussif, ça se prête à un jeu très funk. Et donc, voilà, dès que les bonnes personnes ont vu le potentiel du truc. Et donc,
avec un son très chaud comme ça, qui vous séduit complètement.
C'est un son. Alors, celui-là, c'est peut-être pas le son le plus chaleureux dans les claviers vintage, c'est un son plutôt perçant. Mais très mordant et oui, enfin quand même chaud parce que c'est quand même c'est une vraie mécanique, c'est de l'analogue quoi. Oui, j'adore ce clavier.
Vous les cherchez ces instruments ou vous êtes voilà, vous faites avec ce que vous avez. Vous êtes un vrai collectionneur?
Je suis pas un collectionneur, non. Je suis claviériste, donc je cherche des claviers sur lesquels je vais pouvoir poser mes mains et puis dont je vais tirer des textures et que je sais que je vais pouvoir utiliser sur mes morceaux. Mais je les mets pas sous cloche, quoi. Je leur fais mal, ils s'abîment, je les emmène en tournée, ils se cassent, on les répare, etc. Donc c'est vraiment des instruments pour moi. Mais bon, j'en cherche. Là, par exemple, j'ai dû racheter un nouveau clavinet C pour la nouvelle tournée parce que le dernier tour était trop abîmé.
Ouais, comme vous aussi, vous vous abîmez parfois d'ailleurs sur scène.
Effectivement, oui.
Prenez soin de vous, s'il vous plaît. My thumb unwound, and I Ça aussi, c'est un titre General Electric's qui est très cinématographique, hein, qui raconte une histoire. The Man Who Unraveled, extrait de To Be a Stranger, que raconte cette histoire.
Alors en fait, à la base, c'est basé sur quelque chose qui m'est vraiment arrivé, enfin qui m'arrive d'ailleurs, c'est que je perds mes empreintes digitales. C'est quelque chose que j'ai découvert au service d'immigration américaine.
Vous ne l'aviez pas constaté
En fait, pas de manière assez pas si claire que ça. Pourtant, je voyage pas mal. Mais là, il y a eu une fois où c'est devenu très clair et ils n'arrivaient plus à prendre mes empreintes. Et bon, alors à force de mettre des liquides, etc., ça finit par marcher. Et le gars m'a demandé, mais est-ce que vous êtes clavier ? Et je lui dis oui. Et apparemment, c'est quelque chose de classique. Quand on joue du clavier et qu'on joue un peu fort et qu'on fait ça pendant longtemps, ben on finit par, les empreintes finissent par s'effacer.
C'est l'histoire de l'homme qui perd, son empreinte et donc son identité et qui se retrouve en transit quelque part voilà. Avec plus,
c'est ça.
Plus rien.
Ben exactement. Alors du coup, j'ai pris ça pour le comme idée de base pour le morceau et en fait, donc ce personnage dans le morceau voit ses empreintes se dérouler devant lui et puis voit les lignes de la main disparaître et toutes les traces qui font de lui quelqu'un de particulier, qui font de lui un individu, disparaissent au fur et à mesure du texte, jusqu'à ce que les gens ne le voient plus. Voilà.
Le thème du voyage, là on est en transit dans un aéroport, c'est ça ? Le thème du voyage est omniprésent dans cet album.
Absolument.
To be a stranger, c'est bien d'être un étranger dans un pays ou c'est pas bien.
Je pense que ça dépend.
Ça a des avantages ou des inconvénients.
Je pense que ça dépend des gens. Moi j'aime bien. Maintenant, il y a de la joie, il y a de la nostalgie qui viennent avec ça. C'est-à-dire que vous, à partir du moment où vous vous déracinez, vous n'appartenez plus vraiment nulle part, mais vous appartenez aussi un petit peu partout, quoi. Donc c'est assez enivrant. Et puis c'est aussi la perte des chaussons, quoi. C'est-à-dire que l'espèce de confort qui vient du fait de rester au même endroit toute sa vie. Voilà, c'est indéniable.
Et le confort, vous n'aimez pas ?
Je sais pas. En tout cas, ça n'a pas suffi à me retenir. Je parle de moi, mais je pourrais parler aussi de ma femme, Sarah, puisqu'on fait ça à deux. Hein. C'est pas quelque chose que j'ai fait tout seul. Mais oui, c'est un choix de vie qu'on a fait. On s'est dit, on n'a qu'une vie, allons-y, on va voir un petit peu ce qui se passe ailleurs, et puis on verra.
Quelle vision est-ce que vous portez sur vos 15 ans passés à San Francisco, avec le recul ? Voilà, c'est une période qui a existé, qui est terminée, qui vous a amené plein de choses, et il y en aura d'autres.
Exactement. J'ai pas la sensation. Enfin, si, on a quitté San Francisco, bien sûr, mais j'ai la sensation de toujours y habiter, de la même manière que j'ai la sensation de toujours habiter à Paris, en fait. C'est-à-dire que ça fait partie de nous. On est plus là-bas au quotidien, mais ça va continuer à me suivre et j'y appartiendrai toujours.
Different world inside of you, a different blue, a different sky.
Extrait de ce nouvel album de General Electric. Maintenant, ça y est, il existe. Hein. Il sort aujourd'hui, 29 janvier, To Be a Stranger. Alors, c'est la scène maintenant que vous préparez.
Mm-hmm, absolument, oui.
Vous êtes déjà dessus avec d'innombrables musiciens. Est-ce que ce sont des gens avec qui vous avez déjà joué? Est-ce qu'il y a de nouveaux musiciens? Est-ce que le spectacle va être nouveau par rapport aux tournées que vous avez déjà données?
Ouais.
Adressons-nous à vos fans qui veulent tout savoir.
Ce sont les mêmes musiciens, oui, oui. Mm-hmm. On n'est pas innombrables d'ailleurs, on n'est que 5 en tout sur scène.
Vous occupez bien l'espace hein, quand même.
On occupe l'espace, on bouge beaucoup, donc on donne peut-être la sensation d'être plus nombreux. Mais non, j'aime bien cette idée en fait, que ça reste assez minimal en fait au niveau du nombre de gens sur scène. Par contre, c'est-à-dire que il y a certains des musiciens qui jouent pas juste d'un instrument, qui peuvent en jouer plusieurs, donc ça nous permet une palette un petit peu plus large que si on était simplement un combo rock de base.
Mmh.
Notamment il y a Norbert Lucarin qui va jouer soit du vibraphone, soit de la batterie, ou Jordan Dalrymple qui est un ami californien qui se joint à nous aussi sur scène, qui va jouer soit de la MPC en live, soit de la batterie, suivant les morceaux. Et voilà, ça nous permet une espèce de groupe à géométrie variable, quoi.
Il vous tarde, j'ai l'impression. Énorme tournée qui débute le 9 mars à Nîmes, et puis il y aura Castres, Bordeaux, Agen, Grenoble, Nantes, Metz. Il y a un Trianon le 31 mars qui est déjà complet, se rajoute déjà une date le 29 novembre 2007 à l'Olympia.
Exact.
Merci mille fois pour avoir été là, General Electric.
C'était avec grand plaisir, merci.
Très beau succès et bonne continuation.
Merci.
Disait-elle en chemin, s'il faut jeter sa vie au-delà des orties, où est la poésie?
Merci aussi à Sandrine Straram et Pierre Vallée, ainsi qu'à Bastien Brun. La Maison Tellier, à l'instant, ce seront les invités d'Alain Pilot dès lundi. Voilà, c'est la bande passante qui se termine. La musique à tous les étages qui sévit aussi à chaque instant sur Facebook ou sur RFI.fr. Dans un instant, le journal, passez une très belle soirée.